There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404, présenté par LAM UA.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Studio 404. Quel bonheur de vous retrouver chaque mois, cher public, cher auditeur. Quel bonheur de te retrouver, mon petit Ghislain, toi qui réalise dans l'ombre nos belles émissions. Et quel bonheur de vous retrouver, mes quatre chroniqueurs. Toujours Coucou. Les mêmes, on change pas de formule qui gagne. C'est la monogamie médiatique chez nous, hein. Vraiment, on est très 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 fidèles. Ça va, Fibre ? Depuis le premier jour ?
Bonjour, LAM. Oui, tant de temps qui passe et l'émission qui monte un peu en qualité, c'est vraiment agréable.
Elle monte un peu en qualité. Donc, oui, un, ça veut dire qu'elle monte pas trop, et deux, c'est que c'était pas très quali. Merci, Fibre.
Ça n'était pas magnifique. Non, mais,
j'ai bien compris qu'on était un vieux couple, c'était la monogamie. On se regarde plus, il n'y a plus de passion. Sylvain, il y a encore de la passion entre nous ou pas ?
Énormément, énormément de passion.
Et c'est vrai ?
J'ai beaucoup de passion à vendre ce soir.
Ah, tu vas nous vendre des choses intéressantes hors du périphérique. Incroyable.
Absolument.
Gros effort. Voyage en terre inconnue pour Sylvain. Comment ça va, Mélissa ?
Très bien, très bien. Je suis ravie de vous retrouver, chers amis.
Bah oui. Alors, Mélissa, t'en es au huitième, la huitième phase du teasing de ton projet secret.
À la musique, elle en parlera aujourd'hui.
Après avoir dit non, après avoir donné un compte Twitter, après avoir donné un nom, après avoir donné
là,
une...
Là, on sait que tu peux en accès à la bêta privée. Bientôt, tu en auras.
Une homepage. On sait que ça s'appelle reader.fr. Donc, ouais. On sait qu'au moins, le budget était très, très élevé pour acheter le nom de domaine.
Mais c'est pas si cher, en fait. Hein.
Ah, on verra. Mais on sait toujours pas ce que c'est, tu nous le diras pas,
oui,
je suppose.
Non.
Voilà, c'est incroyable. Merci, mais tu nous racontes la fin d'un truc ? Tu spoil les gens des fois ou pas ?
Jamais. Bon. Je suis sympa pour ça.
Daz, comment ça va ?
Ça va très très bien.
Daz, rien à nous spoiler, rien à nous cacher ?
Non, je suis allé sur la homepage du truc de Mélissa, j'ai rien compris. Donc.
Il a vu un chat, il a fait...
Ouais. Voilà, un chat. Mais il est animé en temps réel, c'est très joli.
Mais bon, Daz, je sens que t'es enfant ce soir, c'est un sujet de prédilection
ouais,
que tu veux nous présenter.
J'ai la patate. On va parler de fusion nucléaire.
Et de la beauté de la pénibilité de la fusion nucléaire.
Exactement.
Incroyable. Accrochez-vous en tout cas, avant ça, on commence par une FAQ.
FAQ.
Allez, on commence avec les FAQ de vous, chers auditeurs. Vous nous avez posé des questions extrêmement importantes sur nos réseaux sociaux. Et il y en a une que j'aime beaucoup, qui vient de Clément. Donc je ne sais pas lequel est le prénom, lequel est le nom de famille. C'est peut-être Clément ou Clément.
Ouais.
Je ne sais pas dans quel ordre on le dit.
Sûrement Clément, ouais.
Ou alors peut-être que c'est Clément, nom de famille. En tout cas, Clément nous dit, la question a l'air un peu bête, mais elle est très intéressante. Si vous deviez payer Internet à la minute, sur quel site n'iriez-vous plus ?
Oh.
Ah. Alors voilà, si Internet redevenait payant à la minute comme à la mode des modems 56K et du téléphone squatté,
2000,
sur quel site vous devriez abandonner aujourd'hui ? Fibre.
Alors je pense que ce serait Google.
Google.
Parce que j'ai une routine Internet, je sais exactement où je dois aller et je serais pas éparpillé dans les labyrinthes des liens de Google.
La fameuse sérendipité.
Voilà, c'est ça.
Donc tu abandonnerais ça ?
Oui.
D'accord, juste pour économiser 56 centimes d'euros
par minute. De toute façon, voilà.
Ce qui est très cher.
Wikipédia nous donne les réponses, Twitter nous donne l'actualité, voilà.
Ok, Fibre se passera de Google, c'est radical.
Il est incroyable, Fibre, quand même. Si j'ai une routine, je sais exactement où je vais dans Internet.
Mais tu sais, c'est des mecs, d'abord la chaussette gauche, ensuite la chaussette droite, toujours dans le même ordre.
Je me perds jamais sur Internet.
Fibre, c'est Zidane d'Internet. Sylvain, est-ce qu'il y a un site que tu abandonnes ?
Qu'est-ce que j'abandonne ? Allez, YouPorn.
Oh là.
Ça mettrait trop long dans la charge.
Pourtant, à la minute, c'est bien. Ça suffit largement.
Ok, YouPorn. Non, mais c'est vrai, ça fait sens que c'est un des sites où les gens passent le plus de temps.
Je pense qu'il vaut plutôt très rapidement. Hein,
non, ça dépend. On en parlera plus tard.
Il achètera des DVD.
Mélissa, quel est le site que tu abandonnerais par avarice parce qu'il te reviendrait trop cher, parce que tu y passes trop de temps ?
Facebook.
Ah bah oui, Facebook.
Forcément.
Bah oui, tu passes beaucoup trop de temps sur Facebook.
Bah, surtout, je passe beaucoup trop de temps à ne rien voir qui m'intéresse.
Ah, c'est vrai.
Mais je l'ouvre parce qu'il se passe des choses qu'il faut que je voie. Mais il y a tellement de temps où je me dis, là, t'as rien vu, T'as passé 10 minutes, t'as rien fait.
Ok.
Voilà, c'était.
Ok, donc économiser du temps à gagner du.
À gagner du temps.
De l'argent à gagner du temps. C'est ça. pas mal. Et toi, Daz?
Eh ben, puisqu'on parle de minutes et pas de données, de volume de données, en fait, j'utiliserai mes minutes pour télécharger, aspirer les sites, en fait, et les lire en ligne tranquillou après.
Comme il se fait peur.
Il a 5 minutes pour réfléchir.
Ça capte rien en 1999.
Non, mais sinon, blague à part, moi, le temps que je perds le plus, c'est sur Wikipédia, justement. Parce parce qu'à chaque fois que j'y vais, c'est parce que j'ai tapé un truc dans Google. Ensuite, je reste 8h30 sur Wikipédia, aller de page en page. Donc, si j'arrête ça, je sais que je vais très, très vite sur Internet.
Donc, avec vous, on abandonnerait Facebook, Wikipédia, Google et YouPorn.
Ça va, tu vois.
Que des petits players.
Que des petits players.
Oh, la tête de l'Internet. Allez, on commence avec le premier sujet, justement, avec un territoire inconnu, l'Internet, normalement, d'après Sylvain.
Sujet numéro 1.
Le numérique bat la campagne.
Voilà, déjà, c'est une très belle titraille. Elle est médiée Sylvain Palais. Sylvain, on vous rappelle, hashtag Palais 2017. Alors, Sylvain part en campagne pour parler du net à la campagne. Que se passe-t-il?
Je suis encore venu pour dénoncer. Là, je suis toujours sur mon programme Palais 2017. Je suis venu pour dénoncer une caste de gens qui sont déconnectés de la réalité, qui sont déconnectés de hashtag les vrais gens. C'est une catégorie de personnes qui veut convertir tous ceux qui ne pensent pas comme eux et qui passent leur vie à donner des leçons de manière condescendante et humiliante.
Les fans d'Apple?
C'est pas exactement. Et c'est des gens qui pensent pouvoir sauver le monde tous les dimanches matin en se levant. Je parle pas des hommes politiques, ni des prêtres, etc. Je parle des jeunes urbains connectés et un peu start-upers sur les bords.
Tu parles de toi?
Pas du tout. Cette espèce en voie de prolifération qui pense pouvoir faire du monde un plus bel endroit. Make the world a better place. Avec un elevator pitch en anglais et une presse en 5 slides. Hashtag UpForum. Dernière lubie en date de ces fanfarons du numérique. Connecter les campagnes. Tout à fait.
Connecter les campagnes.
Ouais, comme des missionnaires nouvelle génération, ils enfilent leur bure Uniqlo et leur crucifix USB et ils partent évangéliser les païens de l'Internet, les agriculteurs et autres paysans.
Oh, les païens.
Ils arpentent les exploitations agricoles dans leurs bottes aigle et vendent des solutions sur mesure aux paysans du coin en imitant l'accent local. En fait, ils l'imitent pas vraiment, mais vu qu'il faut que je place une imitation, il faut que je. Voilà. Le big data est l'avenir de production laitière, Boudio. Ou encore, ce drone GPS, c'est votre chien de berger 2.0. Alors moi, vous voyez, hashtag nostalgie. Moi, j'ai grandi à côté d'une ferme tenue par un couple de paysans. Tous les bruitages sont faits maison.
Gros budget.
Donc, je connais très très bien les agriculteurs. Ah, il ne peut plus s'arrêter. En 2013, les agriculteurs étaient à peine 22% à avoir un smartphone. Et je vous rappelle toujours que 33% du territoire français a une connexion Internet inférieure ou égale à 2 mégabits par seconde.
Oh là, comment ils font pour YouPorn?
Je sais pas du tout. C'est compliqué. Mais ils ont des animaux, donc. Le numérique ne les intéresse pas. Voilà, les agriculteurs numériques les intéressent pas. Et moi, j'ai décidé de les protéger du charlatanisme ambiant de nos jeunes urbains connectés un petit peu start-upers sur les
bords. Donc toi, jeune urbain connecté un peu start-upers, tu as décidé de protéger les paysans des jeunes urbains connectés start-upers.
Donc j'ai entrepris sérieuses recherches sur les agriculteurs et les exploitants agricoles. Uh-huh. Et une heure plus tard, la réalité m'a un petit peu sauté à la gueule. J'ai doucement soulevé la main de la souris. J'ai arrêté de taper au clavier. J'ai recouvert mon visage de mes deux paumes, comme ceci.
Double face palm.
Puis j'ai déclaré calmement, à haute voix, je suis une merde.
tu es du purin.
Voilà, j'ai fait une petite pause, introspection, pour regarder à l'intérieur de moi et faire le point avec...
Pourquoi
moi-même? Parce que le gros con condescendant urbain connecté un petit peu start-upper sur les bords, comme tu l'as dit, c'est moi.
Ah.
Je me suis en effet rendu compte que les agriculteurs, ils m'ont pas attendu pour se connecter, pour être à la pointe, pour s'équiper. J'ai vu qu'ils tweetaient, j'ai vu qu'ils faisaient des selfies.
Des selfies.
Un mélange de farm et selfies. Donc
d'accord.
Des selfies à la ferme.
Donc c'est pas des gens qui vapotent, quoi.
Non. Ils utilisent des tablettes dans leur tracteur en tant que tableau de bord. Ils servent d'applications mobiles pour gérer le bétail, les parcelles. Ils ont des capteurs pour vérifier le taux d'humidité dans les champs de céréales, etc.
Ah ouais.
Mais les mecs sont beaucoup trop en avance pour nous, en fait. Donc je me suis posé cette question et du coup je vous la pose également. À quel moment s'est-on enfermé dans cette espèce de snobisme de jeunes urbains connectés, justement? Comment on peut être autant en contact avec le monde grâce à Internet et finalement ne pas connaître nos concitoyens, ne pas connaître justement cette France du Edge, comme on la nomme avec énormément de condescendance, hein, c'est très condescendant.
Ah, c'est clairement une expression, la France du Edge.
La France du Edge, ouais. Et ça ressemble un peu à une FAQ qu'on avait eue, c'était « Faut-il habiter à Paris pour être sur Internet ?»
Ouais.
Et moi je la tournerais autrement, ce serait « Faut-il habiter en dehors de Paris pour ne pas être un gros con ?»
Ah, bonne question.
Ouais, et l'année dernière, j'avais été invité à une série de conférences, un truc qui s'appelle le Web Today. C'est un peu comme le web, mais ça se passe à Nantes.
D'accord.
Et...
Pourquoi non,
ça vous fait rire?
Non, non, le condescendance.
C'était un nom propre. Non, non, c'était un nom propre. C'était le web.
Le web de Loïc Lemaire.
Voilà, parce que sinon, c'est la phrase est drôle.
Ok. Non, mais j'ai passé une super journée là-bas. J'ai rencontré des gens super intéressants, des start-upers nantais, de Rouen. Je ne sais pas comment on appelle les gens de Rouen. Les Rouennais.
Des Normands, non?
Je ne sais pas. Et je pense sincèrement qu'il faut faire l'effort d'aller vers les autres, de s'enrichir mutuellement. Je suis en train de prêcher la bonne parole. Dans des endroits où on fout jamais les pieds. Et où les usages, parce que c'est ce qui nous intéresse, nous, à Studio 404, les usages pourraient nous surprendre et même nous en apprendre beaucoup, je pense. Il faudrait en fait un striptease du numérique pour nous montrer qu'on ne sait rien de la France connectée, en fait. Il nous faudrait un Antoine de Maximy dans une émission qui s'appellerait « J'irai surfer chez vous ». Et qui irait dans des écoles, des fermes ou dans la banlieue de Saint-Etienne, pourquoi pas. Parce que moi, je trouve qu'on manque cruellement de connaissances à ce propos. Et c'est même une lacune que je ressens dans mon métier. La moitié des opérations publicitaires qu'on voit sur Internet sont formatées pour des usages qui sont ceux de 2% de la population, c'est-à-dire les gens qui travaillent en agence de publicité. Non, c'est simple. Non, mais c'est vrai. Il y a bien quelques initiatives comme Simplon, The Village, qui lancent des programmes dans des zones rurales, là où personne fout les pieds, mais c'est pas suffisant. Sur le papier, le web est un formidable outil démocratique qui réduit la géographie, n'est-ce pas, Fibre ?
Ouais.
Prouvons-le sur le terrain. C'est pourquoi je vous annonce que nous ferons notre prochaine soirée 404 à Rennes, puisque j'ai vu que nous y avions 21 fans Facebook.
Ah, bah oui,
c'est super, il y a le Stonefest.
C'est pas du tout la campagne.
Bah oui, il y a le Stonefest là-bas tous les ans.
Bah, j'annonce en avril, on va réussir à mêler un pèlerinage au Stonefest plus une 404 en plus.
Moi, je suis chaud, de toute façon, j'y vais tous les ans.
Waouh.
Est-ce qu'on peut appeler ça 404
Alors, on peut pas y aller.
C'est quelle zone? C'est vraiment la campagne. Avant qu'on se fasse défoncer la gueule par la France du Edge, hein. Sylvain, tout comme je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir. Sylvain n'est pas un jeune urbain condescendant puisqu'il vient de la province. Mais comme tous les provinciaux montés à la capitale, il essaie de cacher ses origines.
Rastignac.
Pas du tout, je suis très fier.
Déjà, est-ce qu'il y a des Parisiens purs et durs ici ou pas?
Je suis né à Paris.
Je suis né à Paris.
Ah, t'as grandi en banlieue comme nous.
Oui,
tous.
Je suis né à Paris, j'ai grandi en banlieue. Et
Fibre.
J'ai vécu mes 19 premières années à 800 km de Paris.
Ah.
Oui, c'est un sudiste.
Oui, c'est un sudiste.
Et tu vois, il parle pas trop vite, donc je sens qu'il est un peu comme Sylvain, il a un peu honte.
Non, non, alors j'ai une partie de ma famille qui vit dans la France du Edge, et même dans la France du rien, parce que parfois il n'y a même pas Edge. et d'ailleurs, ce sont des gens connectés, ce sont des gens qui sont proches du secteur agriculture. Et en fait, je crois que la différence, c'est que les agriculteurs, les personnes qui travaillent, qui ont des métiers très très traditionnels, sont des personnes chez qui la technologie connectée et arrive, mais en fait c'est exactement comme un nouveau modèle de tracteur. C'est-à-dire qu'en fait ils s'en foutent. Et quand ils vont sur YouTube le soir, pour des raisons semi-professionnelles, mais ils vont pas après dire le lendemain matin, hey, les mecs, j'ai vu un truc sur YouTube, c'est génial, comme nous on le fait. C'est-à-dire, en fait, je crois que la pénétration technologique est la même, mais l'attitude qu'on a personnelle. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, sur Twitter, on parle souvent de l'importance de la curation de contenu. C'est-à-dire, on trouve un contenu, on se met en avant, on trouve une nouvelle appli Hello ou comment ça s'appelle, Secret ou je sais pas quoi, on en parle. Et en fait, c'est juste une forme d'existence à travers l'outil. Et eux, ils ont une forme d'utilisation de l'outil à travers l'outil.
Voilà. D'accord, oui, c'est beaucoup plus pragmatique d'une certaine manière.
Voilà.
Daz, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as envie de casser la gueule à Sylvain?
Non, 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 non. Mais je pense que l'illusion, en fait, il est jeune. C'est pour ça qu'il était pas au courant.
En soi, cette sorte de décalage entre, on va dire, les Parisiens et les provinciaux. Toujours existé sur ça, plein d'échelles
toujours
différentes.
Existé,
sauf
par
qu'on
contre,
pensait que ça n'existerait pas avec Internet.
Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, l'agriculture, ça reste un milieu qui est quand même super. Enfin, on s'y intéresse pas quand on travaille pas dedans, en gros.
Oui.
C'est
un milieu qui est en régression aussi.
Oui, aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des usages qui sont présents depuis super longtemps, genre la gestion des moissons par satellite, etc. Ouais. C'est des trucs que moi je vois depuis super longtemps, avant même qu'on parle de réseaux sociaux ou de quoi que ce soit. Il y avait déjà ce truc-là. Il y avait même pas d'internet à la limite, parce que t'avais pas besoin de ça pour être connecté avec un satellite. Et en ça, ça rejoint un peu l'armée et tous ces corps de métier qui en fait ont des trucs ultra ultra techniques. Ouais. Si jamais j'en parlais sur Internet, ça serait génial.
Mais comme dit Fibre, ils jouent pas leur vie dessus. C'est juste que enfin,
c'est pas leur style de vie,
c'est un outil.
Ouais, bien sûr, c'est un outil. Et d'ailleurs, je vois même pas en fait, parce que tu parles vraiment d'Internet, mais dans le cadre de ce que je disais, le tracteur par GPS ou le drone.
Ouais, ils ont des tracteurs qui se conduisent tout seuls par GPS.
Il y a même pas besoin finalement de lien Internet.
C'est comme des gros aspirateurs Roomba, mais
figurez-vous que chaque année il y a des tournois de compétition de labour.
Ouais.
Ok. Ah oui. Et ça, l'arrivée de GPS a tout changé. C'est-à-dire que maintenant, au millimètre, ils peuvent labourer. C'est plus pareil qu'avant où il y avait des chevaux de trait, tout ça. Donc
alors, en cours de labour, il y a plusieurs catégories. Il y a la vitesse. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est justement d'avoir le sillon le plus droit possible.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est incroyable.
Wow.
Mais est-ce que tu trouves que Sylvain est condescendant en essayant de dénoncer les gens condescendants?
En fait, je pense que Sylvain, il s'est retrouvé face à son ordinateur en disant, je vais tous les traiter de bouseux et tout et machin. Et en fait, il s'est dit, mais non, j'ai trouvé plein de trucs, je peux pas faire ça. Donc.
Mais non, c'est l'inverse en plus que je voulais.
Je pense qu'il y a quand même une élite des agriculteurs qui sont à mort et qui utilisent tous les outils et justement qui ont des usages qu'on ne connaît pas. Moi, notamment, il y a un agriculteur qui me propose des boîtes de foie gras à peu près toutes les semaines sur mon compte Twitter et je pense qu'il le fait avec plein de gens. Et du coup, il y a plein de gens qui le retweetent parce qu'il est hyper sympa et il te harcèle, donc il te fait des pokes toutes les semaines. Voilà. Mais après, tu as des mecs qui doivent avoir une connexion Internet et aller, je sais pas, sur leur mail tous les jours, mais c'est tout, quoi.
Ok.
Non, donc, je pense qu'il n'y a pas. S'il y a une frange d'agriculteurs cool, Sylvain nous a envoyé un lien. De France Info, c'est ça.
Ouais.
Hashtag le veau, tu vois. Et,
j'ai appelé mon veau hashtag, ouais.
Ouais, j'ai appelé mon veau un veau qui s'appelle hashtag. C'est agriculteurs cool, mais est-ce que c'est. Tous les agriculteurs sont comme ça? Et est-ce que ça représente aussi l'aspect traditionnel de la profession? C'est pas sûr.
Je pense qu'il y a des castes d'agriculteurs. Il y a les agriculteurs de banlieue, genre de grandes banlieues, ceux qui sont dans l'abri, par exemple.
Ouais.
Puis il y a les agriculteurs du Larzac. Et je pense que déjà, entre eux, ils se considèrent pas exactement comme.
Donc en plus, il y a la condescendance.
On est français.
Il y a
ceux qui sont
partout.
Super équipés, ceux qui n'ont rien du tout. Enfin,
bah oui, c'est sûr.
En tout cas, si vous écoutez 404 et que vous êtes agriculteur, ne déposez pas tout de suite du lisier devant les locaux des studios ni devant chez Sylvain. Mais effectivement, on serait très intéressant d'en savoir plus en tout cas.
Sur votre routine internet.
Merci Sylvain, je ne te méprise point. Merci. Allez, une fac.
FAQ.
Alors, seconde fac, si j'arrive à l'ouvrir. Oui, j'arrive à l'ouvrir. Alors, seconde fac pour vous, mes amigos. C'est Richard William Damien qui la pose. C'est quoi ces prénoms composés ce soir-là? Bon, alors, Richard William Damien. Donc, je ne sais pas si le mec s'appelle Richard William Damien ou Richard William Damien.
Je croyais qu'on avait mis fin au pseudonymat sur Facebook.
Voilà. Donc, après Clément, on a Richard William Damien. Donc, deux sont déjà cinq. Il nous demande sur Twitter, qu'est-ce qu'il faudrait... Alors, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'une voiture devienne populaire de la même manière que l'iPhone?
Eh bien, il faudrait
des
yeux.
Alors,
Daz. Il te faudrait des yeux, mon ami, car c'est déjà le cas.
Ah bon, c'est déjà
le cas. Je prendrai le cas de la Fiat 500, qui sont devenus les standards des citadines. Même si la Mini, maintenant, c'est un peu un camion, justement, par rapport à la Fiat 500. Mais je veux dire, ça existe déjà, quoi.
Et sur les caisses, Daz.
Mais ouais, me cherchez pas, les gars, c'est mon taf.
Alors, c'est-à-dire, ils ont utilisé les mêmes techniques que pour l'iPhone, ils ont vendu quoi? Plus de...
Non, c'est le côté rétro qui a séduit, néo-rétro, c'est comme ça qu'ils appelaient ça avec la Beetle, Beetle à l'époque.
Et la personnalisation aussi.
Et voilà, le fait que tu puisses customiser.
Et c'est pas de l'iPhone, ça, alors? Parce que l'iPhone, il n'y a pas de...
Enfin, il y a de la customisation, tu changes le fond d'écran. Mais tout le monde a le même téléphone.
Par iPhone, il voulait dire genre révolution industrielle, changement de paradigme.
Qu'elle devienne aussi populaire qu'un iPhone.
Comment
rendre une voiture aussi populaire qu'un iPhone? Peut-être à la manière d'un iPhone.
Pour que les gens fassent la queue devant leur concessionnaire. Quoi.
Exactement. Alors qu'elle est vendue cher, par exemple. Moi, je pense à la Tesla, par exemple. Fibre.
Ouais. Moi, je pense plutôt à Cocorico, la Twizy de Renault.
Ouais.
Donc, qui est une voiture complètement électrique qu'on voit un petit peu à Paris.
Ouais.
Et qui se charge. Elle est pas populaire. Et justement, j'ai écrit à Renault. Pas plus tard qu'il y a deux jours.
en leur disant,
elle est géniale votre Twizy, mais elle a un problème.
C'est
que il faut que vous fassiez exactement ça, mais qu'un look sport, un look classe.
La Twizy, quelques croquis.
Non, mais c'est pas ça. T'as une Ferrari
mais je comprends pas. C'est comme un quad, c'est-à-dire que c'est pas un quad, c'est un
scooter.
Mais non, mais c'est trop large pour souffler entre les voitures. T'as qu'une seule place, t'as pas de vitre.
Mais même Smart, ils ont fait une Smart un peu sport, une Smart cabriolet, tu vois, un peu classe. Et c'est ce qu'a fait Steve Jobs. Il a pris la tablette à la con, il l'a rendue vachement, vachement belle. Enfin, il a rendu comme le fantasme qu'on avait de Minority Report. Et il faut que Renault, il a fait son petit cajot Twizy qui est vachement sympa.
Le fantasme automobile,
mais le fantasme automobile qu'on voit dans les James Bond. On voit je veux une voiture James Bond, Twizy électrique. Voilà.
Voilà, fibre même pas convaincu du tout.
William Sorin, Richard,
Richard William Sorin.
Sa réponse, il faut une voiture qui vole.
Il faut une voiture qui vole. Ah, voilà. Très bien, une voiture qui vole. Ce serait assez disruptif, je pense, assez glamour. Mais Elon Musk, qui est justement le boss de Tesla et qui est le roi du futur, a dit qu'il ne croyait pas à une voiture qui vole parce que c'était trop compliqué, ça encombrait le ciel, on se prend un truc dans la gueule.
J'aime trop ce mec, Elon Musk. Tu m'as dit, voiture verte, je vais bosser sur le sujet.
Quand Steve Jobs a teasé sur le Segway, il a dit, on savait pas ce que c'était, il a dit, ça va révolutionner la ville.
C'est
et
vrai.
Tout le monde a pensé que ça allait être un jetpack.
Ouais. Non, mais c'est vrai.
Et en fait, non.
Mélissa, comment tu marketerais pour qu'une voiture devienne aussi populaire qu'un iPhone ? Est-ce qu'il y a des recettes que tu reprendrais ou est-ce qu'il y a des choses ?
Moi, c'est pour ça que je comprenais pas la question. C'est que, à mon avis, ça peut pas être aussi populaire à partir du moment où l'usage est déjà mainstream.
Ouais,
l'iPhone,
ça
a juste.
Oui, c'est
le
vrai,
téléphone,
ça
existait, mais il y avait pas le téléphone avec. Pardon,
C'est un iPhone qui vient.
J'ai lâché mon iPhone sur la table. Il n'y avait pas un iPhone avec Internet, avec tes mails, avec tout.
Donc, pour c'était toi, il faudrait une voiture avec un usage disruptif, peu comme la voiture volante dont on parlait, Sylvain.
Je n'ai pas encore la solution. Si je l'avais, je serais riche.
Ça n'est juste pas possible, hein, je le dis pour tout le monde.
Une voiture volante?
Un usage disruptif pour la voiture, c'est impossible. Il y a tellement de normes à respecter que c'est impossible.
Bah, moi, je pensais donc à Tesla et puis aux voitures 100% automatiques de Google.
C'est un volant, 4 roues et t'es assis dedans.
Non, bah, Tesla, ils vont apporter la conduite semi-automatisée sur les autoroutes et les créneaux automatisés.
Ça existe déjà.
Tu n'auras plus à conduire, tu sais.
En tout cas, moi, j'attends d'avoir une voiture que tu n'as plus à conduire.
Ça s'appelle le RER.
Mais non. Une voiture que tu n'as pas à conduire, mais qui t'emmène où tu veux et tu ne te fais pas dépouiller.
Tu n'as pas de chauffeur.
Là, c'est disruptif.
Ça s'appelle le RERC.
Bon, Richard William, on en parlera très très vite. Allez, tout de suite, deuxième sujet avec Monsieur Fibre.
Sujet numéro 2.
Le transmédia, une illusion bien française.
Alors, c'est l'instant où on tape du poing sur la table, on dénonce, on attaque. Hein. Alors, aujourd'hui, le transmédia va s'en prendre plein la gueule et c'est Fibre qui va lui en mettre plein la gueule.
Je vais faire un petit suicide professionnel parce que je travaille dans le transmédia.
Ah non, ça c'est Mélissa, ça. Non, le suicide professionnel, c'est le domaine de Mélissa.
Et nouvelle saison, les tables sont tournées, voilà.
D'accord.
Petite histoire drôle.
Alors, le transmédia.
C'est l'histoire d'un Américain, d'un Japonais et d'un Chinois et d'un Français. Ils sont autour d'une table. L'Américain vient d'inventer le nouveau Star Wars. Il en fait un film et il devient millionnaire. Le Japonais dit « C'est génial, yata !» Et il en fait un dessin animé, un manga, et il devient millionnaire. Le Chinois dit « Haoban !» Et ses enfants fabriquent des jouets, et il devient millionnaire.
Tellement de raccourcis dans cette émission.
Et le Français s'exclame « Formidable, je vais tweeter que nous faisons du transmédia. » Qu'est-ce que le transmédia ?
Il devient pas millionnaire ? Attends, t'as pas fini ta blague.
Mais non, il devient pas millionnaire.
Ah d'accord, okay.
Non, mais il a fait un tweet, et il aura peut-être des retweets. Qu'est-ce que le transmédia ? Alors, je vais faire le... Petit passage Sylvain, Wikipédia. C'est un terme circonscrit par Henry Jenkins, ancien enseignant du MIT, spécialiste de la culture des fans. Donc, pas des ventilateurs, mais des fans
de.
Voilà, les fans de. Exactement. Donc, le transmédia consiste à, en vulgarisant, à développer un univers et à le raconter au travers de divers supports. Par exemple, on peut imaginer une émission de télé et Twitter. Ou un livre, ou un serious game, ou même une expo, un jeu de rôle alternatif, réalité...
C'est une entité qui peut exister sur plusieurs plateformes.
Voilà, elle doit exister sur plusieurs plateformes, d'accord. Sinon elle n'est pas transmédia. Donc je vous passe tout un tas de buzzwords universitaires qui hantent les rêves humides de Sylvain, comme intersectionnalité, interopérabilité des concepts, story world, rabbit holes, etc.
Interracial, tout ça,
j'adore.
Donc, alors... ça existe un petit peu déjà, mais dans son aspect pur, le transmédia utilise des supports de façon naturelle. Par exemple, quand on fait un jeu vidéo Harry Potter, on ne prend pas les pages du livre Harry Potter et on les met dans un écran, mais on essaie de l'adapter au système du jeu vidéo.
C'est vrai.
Et là, vous allez me dire, mais Fibre, Star Wars, Harry Potter, justement, Marvel, ils font du transmédia depuis longtemps. Eh bien oui, comme la prose de Monsieur Jourdain. Mais en France, comme on fait mieux que tous les autres, d'abord on trouve le mot et ensuite on applique le concept.
Et on n'y arrive pas.
Voilà. Alors, donc il y a une petite... French frenzy about transmedia.
Ouais.
Voilà, je le dis en anglais parce qu'en fait, si vous googlez le terme anglais transmedia storytelling, même sur Google.fr, enfin sur Google.fr, 8 liens sur les 10 premiers sont en français. Le terme est en anglais. C'est un terme anglais mais qui passe dans le modèle courant des agences marketing création. Donc en France, on aime bien ça parce que essentiellement c'est soutenu financièrement par des bourses octroyées par le CNC ou Orange, plutôt généreuse, plutôt généreuse. Bah ouais, mais bon. Et si je vous parle aujourd'hui du Transmedia dans 404, c'est qu'il est possible entre guillemets que vous en entendiez parler à l'avenir, que ce soit au travers du studio 4.0 de France 4, c'est un petit peu un plagiat de notre émission.
Tout à fait.
Qui essaye de mélanger les séries web et séries TV, des Serious Games complémentaires édités par France TV Nouvelles Écritures, et il y a une semaine, c'était l'événement I Love Transmedia. Tout ceci sont des expérimentations, en fait, qui, selon ma théorie complotiste, existent pour faire dériver les médias traditionnels qui sont un petit peu rigides comme la télé et la radio vers le web qui, de toute façon, les cannibalisera partiellement à terme. Et pour que ça passe un peu plus facilement, il y a cette stratégie qui est, peut-être pertinente. Mais moi, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a besoin du transmédia ? Est-ce que c'est une évolution positive pour nous en tant que consommateurs culturels ? Est-ce qu'au lieu d'un livre avec 1000 pages, il vaut mieux 1000 livres avec une page ? Ou 1000 livres avec 1000 pages, mais bon, c'est encore autre chose. Mais alors, première question de bon sens paysan, puisqu'on sort de l'agriculture. Entre nous, les amis, il est tellement rare de trouver une bonne émission de radio, une bonne émission de télé, un bon jeu vidéo à lui tout seul, qu'on se demande quel est l'intérêt de le décliner en parallèle. Pourquoi diviser nos forces ? Est-ce qu'on a les moyens intellectuels de produire de la qualité sur plusieurs canaux parallèles ? Mais est-ce qu'on a les moyens intellectuels de recevoir tous ces canaux parallèles ? Je vais vous donner une petite anecdote marrante. Imaginez, vous êtes fan de Batman. Vous êtes vraiment un fan de Batman. Dimanche, vous jouez toute la journée à Batman Arkham Knight, là, le prochain, qui est lié au film qui va sortir, puisque c'est du transmédia, Batman machin, Batman 4, on va dire, au cinéma, c'est une hypothèse. Vous rentrez du film, vous mangez un petit peu, vous allez dans votre lit, et vous lisez les comics Batman. Ça fait pas un peu trop de Batman ? Je veux dire, même si vous êtes fan, ça, on n'en peut plus, quoi, je veux dire. Qui va consommer tout ça ? Et est-ce que ce multicanal artificiel, entre guillemets, est accepté et acceptable. Quand TF1 passe des faux tweets pour stimuler un petit peu, pour donner un peu de cred à ses émissions.
Ah, c'est des faux tweets.
Voilà, bien sûr. Alors TF1, il va vous dire, mais oui, mais c'est une forme de théâtre. Mais est-ce que Maître Moya, c'est un acteur, tu vois, je veux dire, peut-être c'est un acteur, je sais pas.
C'est qui Maître Moya ?
C'est lui-ci qui ramène les résultats.
Voilà,
d'accord.
Merci.
Maître Nadjar de la Lune.
On est passé d'un monde où le multicanal Star Wars se faisait à l'ancienne avec des jouets, des magazines dérivés, avec les communautés des fans qui fabriquaient par exemple des fanfiction. Un multicanal interconnecté qu'on veut, et ça c'est la différence, orchestrer à l'avance.
Ah oui, c'est là donc.
Est-ce qu'on peut orchestrer le mouvement des fans ? Je veux dire, aujourd'hui on est dans un monde où George R.R. Martin, auteur de Game of Thrones, il appelle un de ses fans pour poser des questions sur son propre univers. Non mais c'est vrai, le mec s'appelle Elio Garcia. Je veux dire, il a créé un site, il connaît tout, quoi. Il connaît mieux que l'auteur. Le transmédia, c'est un mode de communication. Donc c'est au mieux un fantasme de communicant, Sylvain Palais. Mais on va dire c'est le cas du livre, c'est donc un support, mais c'est pas la substance de ce qui est communiqué. Le transmédia peut pas assurer le succès d'un univers ou d'une production. Il peut au mieux la transmettre, et selon moi, il la transmet avec une petite dégradation par rapport à une œuvre monolithique. Et je vais vous faire la petite démonstration. Vous connaissez Harry Potter, la prison d'Azkaban. Imaginez un companion app, donc une application deuxième écran de Harry Potter qui vous permet de visiter la prison d'Azkaban. Est-ce que la vision canonique, officielle, qui vous sera imposée par le Companion App, ça ne va pas détruire les millions de visions différentes des lecteurs ? Et ça ne va pas détruire la magie collective d'Harry Potter ? La dernière question que je vous poserai pendant cette chronique, c'est est-ce que le transmédia, justement, en voulant vous enrichir, ne va pas au contraire vous enlever ce qui vous est le plus précieux, c'est-à-dire venir dans votre imaginaire et vous enlever ce que vous étiez approprié de l'œuvre ? Voilà.
C'est sérieux.
France Culture.
Alors oui, beaucoup de questions quand même.
J'ai quelques questions si tu me.
Alors vas-y. Dan.
Alors déjà la différence entre le transmédia et le cross-média, parce que moi j'entendais parler de cross-média.
Je ne sais pas ce que c'est que le cross-média, mais d'accord. En tout cas le transmédia c'est donc en fait c'est le fait d'orchestrer à la base le multicanal, mais multicanal qui peut aller loin dans des expos par exemple. Voilà.
Deuxième question. Tu parlais de Star Wars, donc de tout plein de trucs qui ont été déclinés justement sur plusieurs supports. Est-ce que le transmédia implique une absence de temporalité ? C'est-à-dire que dès le départ, tu sais que tu vas faire 12 000 trucs, Ou si justement, le premier marche.
Justement, c'est la question, c'est que Fibre, justement, chanter les louanges d'un transmédia naturel.
Ouais, organique, on va dire.
Organique, un bio.
Mais par exemple, est-ce que Star Wars, c'était organique? Est-ce
oui, parce que Star Wars a quasiment presque par accident inventé le merchandising, puis les produits dérivés.
Oui, mais je crois que Lucas avait prévu dès le départ, lui, de décliner des jouets
donc
dans tous les sens.
Lucas a la mentalité. Il a la mentalité. Oui. Mais,
mais aujourd'hui, effectivement, les derniers Star Wars ont été conçus pour être des séries télé qui sont entre deux films de cinéma et des livres, etc. Alors, le transmédia, ça existe depuis un petit bout de temps sous forme de livres adaptés au cinéma. Tu l'as dit à la fin, effectivement, il y a toujours le choc de lire un livre puis de voir l'adaptation au cinéma, etc. Mais c'est vrai que ça se généralise beaucoup, beaucoup. Mais c'est très large, hein, quand même, comme sujet. Parce que ça se généralise dans la culture, mais ça, on peut aussi parler de ce qui est passionnant, c'est les big boss de tous les groupes médias qui doivent commencer à penser que leur radio doit être en même temps filmée en vidéo et puis dérivée en app, etc., etc. Et toi, donc, t'es plutôt contre un film.
Oui, je pense que, alors, uniquement du point de vue culturel, ça dénature l'œuvre.
D'accord.
Mais par exemple, j'ai entendu parler, enfin, quand vous filmez une émission de radio, la personne, elle vient pas en tongs, elle s'habille. Et donc, ça, c'est des contraintes supplémentaires. Et est-ce que la valeur ajoutée, elle est intéressante?
Le contenu est le même, en fait. Pour le coup.
Ah,
je pensais que le changement de support, c'était le but, c'était de pas raconter la même histoire.
C'est justement des questions. Mélissa, tu m'as l'air un peu...
Bah, je sais pas, je suis assez d'accord avec Philippe parce qu'en fait, je trouve que le transmédia qui est trop pensé ou qui est un peu fake, que les télés, par exemple, font, quoi. On va mettre des tweets, on va faire du double écran, enfin, du second écran. On va jouer à fond là-dessus. Tu sens que c'est des chaînes télé qui cherchent un peu à avoir de la nouvelle audience, des jeunes et tout, et qui se disent, on va être sur Internet, comme ça on sera cool. Comme ça on ira chercher les petits nouveaux. Ouais. Et ceux-là, effectivement, je trouve que c'est un peu, on cherche vraiment du fric et des nouvelles audiences contre ces vieux qui, effectivement, l'ont pensé dès le début et c'était hyper naturel et ça s'est fait bien.
Pourtant, par exemple, le second écran, c'est venu assez naturellement. Ça n'a pas été orchestré dès le début. C'est qu'on a vu que beaucoup de gens se
sont réunis sur les réseaux sociaux. Ça s'est fait naturellement du point de vue de l'utilisateur, de l'internaute qui regardait la télé et qui débriefait en même temps. Mais du coup, les chaînes ont essayé de s'approprier ça et quand elles l'ont fait, ça a été horrible. Enfin, le nombre d'émissions qu'on connaît ici autour de cette table où on a été approché en mode « vous ne voudriez pas faire un peu d'internet / télé / internet avec nous ?» et où en fait, tu regardes l'émission, ça tient 3 mois et c'est fini. Parce qu'ils ont essayé de faire une émission transmédia, ils savaient eux-mêmes pas ce que c'était le transmédia, et du coup, c'était un gros fail.
Sylvain, qu'est-ce que t'en penses de tout ça?
Alors,
c'est vaste hein, quand même. Hein.
D'abord, le terme transmédia, saut 2010. Pour moi, c'est, mot...
Sylvain a repris ses...
Super vieux.
Ses habits de condescendant.
Quand je suis arrivé à Paris et que j'ai commencé à faire mes études dans la publicité, on parlait du transmédia comme la prochaine révolution des marques et tout.
Mais tu sais qu'il y en a encore qui font ça sur le transmédia. Hein.
Je sais.
C'est quoi le terme?
Le terme de quoi?
C'est transmédia.
Transmédia.
Je pensais que comme le terme était pourri, il y avait mieux.
Non, c'est ça. Après, moi, je pense qu'il y a une distinction à faire entre étendre un univers sur plusieurs médias et raconter une histoire. C'est différent. C'est-à-dire que si je regarde une série télé type Battlestar Galactica et que j'ai un spin-off en web-série sur un personnage secondaire...
Ce qui s'est fait, d'ailleurs.
Ce qui s'est fait, ça m'intéresse. Après, le truc a été inventé pour une raison très simple, c'est qu'en communication, en publicité... On parle d'un truc qui s'appelle les points de contact. D'accord. C'est-à-dire qu'on parle plus de médias puisque c'est plus aussi carré qu'avant. C'est des points de contact. Facebook est un point de contact. TF1 est un point de contact. Une affiche publicitaire dans la rue est un point de contact. L'idée, c'est que on a des points de contact toute la journée. Quand on possède une marque et qu'on veut la faire connaître auprès des consommateurs ou des futurs consommateurs, on essaye d'envahir tous les points de contact possibles et imaginables. Donc on prend un univers et on le décline sur tous les points de contact.
D'accord.
En gros, le transmédia, c'est juste logique de la part d'une marque de faire ça, quoi. C'est
alors,
de la couverture.
Alors je vous pose une dernière question à tous, du coup. En tant qu'utilisateur, il y avait un point qui m'avait beaucoup intéressé sur ce qu'avait dit Fibre. Est-ce qu'à un moment, vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez essayer de couvrir ou d'honorer tout le spectre média qui vous est offert par des œuvres culturelles, c'est-à-dire vous faire le jeu vidéo Batman tout en ayant lu l'après-quel qui est en bouquin et le film qui va faire la transition entre les deux volets, etc. Ouais. Ou est-ce que vous êtes en train de vous dire à un moment, non, une œuvre doit m'occuper un certain volume de mon temps, sinon c'est too much.
Prums.
Daz,
je dirais que là-dessus,
a changé de rôle, je comprends pas.
Non, je dirais que là-dessus, en fait, notamment sur le pont que tu fais avec le jeu vidéo, de toute façon, ce qu'on a dans le jeu vidéo, bien souvent, c'est issu du support cinématographique. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on adapte les jeux une fois qu'ils sont sortis au cinéma.
D'accord.
Sauf petit miracle, machin, ou alors dans ce cas-là, effectivement, en attendant un épisode, on va anticiper sur ce qu'on va voir dans le futur film. Mais généralement, je veux dire, on déflore pas l'univers. Le fait de le voir en jeu vidéo ne change pas notre
est-ce que d'un point de vue endurance culturelle, tu peux te taper 25 heures de jeu vidéo et les deux films et les comics parce que moi tu vas faire l'impasse, tu vas dire bon écoute juste le film ça m'ira.
Oui, je suis d'accord avec ce que disait Fibre sur Batman, ça c'est peut-être un peu too much de manger les céréales et regarder le film et lire les bouquins, mais espacer dans le temps dans un temps relativement assez court, pourquoi pas.
D'accord, OK. Mélissa.
À mon avis, si le contenu de base est en fait ouf,
Oui.
Tu, le transmédia, tu le sens pas parce qu'en fait, tu vas le chercher. Alors que quand, du coup, on te l'impose en disant allez voir ce truc sur internet et que le truc de base, en fait, tu t'en fous un peu, bah, tu le sens trop et du coup, tu le fais pas.
Est-ce que t'es en train de parler de quelque chose comme True Detective, par exemple, qui avait, voilà. Qui avait une vraie dimension sur internet, qui n'invitait pas forcément, mais qui laissait les gens aller chercher et enrichir le.
Bah, exactement. Ça, c'est des vraies expériences transmédia.
Presque un ARG, d'ailleurs.
Ouais. Et donc toi Sylvain,
moi je pense qu'un fan hardcore, s'il veut bouffer tout le contenu, il le fait quoi, il est content, d'en avoir toujours plus.
D'accord, ok. Bon, Fibre, toi tu le feras pas toi.
Non. Non et en plus, je suis à l'ancienne, je suis le plus vieux de l'équipe.
Oh.
Et moi j'aime bien avoir une part d'imagination.
Voilà. Arrêtez.
Non mais je comprends, mais tu peux ne pas regarder tout ce qu'on t'a.
C'est de l'érotisme, Daz. C'est moins la fille.
La fille,
faut pas qu'elle. La fille, faut pas qu'elle soit toute nue. Il faut qu'elle soit un petit peu habillée.
La prison d'Azkaban, c'est de l'érotisme, le film aussi.
Mais j'aime pas trop aimer Harry Potter. Je trouve.
Fibre, tu as déjà vu des films de prisonniers, des films de gladiateurs? On en parlera tout de suite après la fac.
FAQ.
Une troisième fac avec quelqu'un qui a un nom de famille qui ressemble à un nom de famille. Il s'appelle Simon Bitan. Merci Simon.
Simon Bitan.
Alors Simon nous demande des nouvelles de nos collègues. Voilà, il nous demande pourquoi l'émission Touche pas mon POC n'existe plus.
Bizarre.
Eh bien, pourquoi suis-je le seul à m'en plaindre ?
C'est lié au précédent sujet.
Plusieurs questions. Pourquoi n'existe plus ? Pourquoi il est le seul à s'en plaindre ? C'est important. Et voilà, il me dit, était cool cette émission ? Non. Voilà. Donc,
en fait, ça lui manque pas, mais il veut quand même savoir pourquoi ça n'existe plus.
Voilà. On vous rappelle que Touche pas mon POC, c'était une émission sur aussi la culture numérique.
Le Move.
Et qui était diffusée sur le Move, animée par le collègue Vincent Glade. Et effectivement, qui n'a pas survécu à sa saison. Vincent est parti en exil en RDA.
Tout à fait.
Alors, à Berlin-Est, ce qui est presque pareil. Et l'émission a disparu. Alors, c'est bête, Ghislain, il n'a pas de micro, mais Ghislain pourrait nous en dire plus sur le Move. Mais donc, l'émission a disparu.
Le Groove.
Le Groove.
Non, on sait toujours pas comment ça va s'appeler.
Pourquoi l'émission a disparu déjà ? On sait ?
Je sais pas.
La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'elle est venue ?
On a tous une idée. Non, mais c'est juste que quand on essaye de parler d'Internet à tout le monde,
oui.
Donc pas aux gens comme.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Parce que le Move, c'est une radio jeune en plus. Donc oui. Ils auraient dû y aller, genre faire un truc hyper pointu.
Oui.
Et là, ils ont fait un truc un peu mainstream. Du coup, c'était moyen.
C'était moyen mou. Ok, donc pour toi c'était entre les deux.
Mais je pense qu'eux-mêmes étaient frustrés. Hein,
d'accord.
Par le fait d'être obligés de parler à tout le monde au lieu de pouvoir parler aux 2000 personnes qu'ils auraient potentiellement ciblées. Qui sont les 2000 qui nous écoutent ici à Studio 404. Merci beaucoup.
Est-ce que vous regrettez cette émission ou pas ?
Non.
Et là, le silence.
Non, mais attendez,
j'ai pas trop écouté,
le titre. Touche pas à mon POC.
Oui, mais non, voilà, ça, on est d'accord.
Fibre.
Touche pas à mon POC, le titre est tellement ringard que ça a embarrassé tout le monde. Donc, l'émission est arrêtée,
mieux. On vous rappelle que c'était un clin d'œil, l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. C'est
oui,
ça.
Et puis après,
c'était pas le mouvement Touche pas à mon pote de Arnaud
Désir. Non. Oui, aussi, c'est un peu
déçu. Je suis déçu.
C'est Cyril Hanouna. Non, désolé.
Je veux dire, à un moment, il faut être cool. Le Move a envie d'être cool. Voilà. Et si elle veut, il y a Studio 404 par exemple.
Non mais tout ça là, c'est le fruit de ce qu'on en appelle la politique éditoriale, qui est le cancer, n'est-ce pas, de la créativité.
Voilà. Non.
Si, je te le dis à toi aussi.
Non, c'est pas une politique éditoriale, c'est la ligne de Radio France qui fait que ça doit être un média grand public, et quand tu veux parler d'Internet, soit
donc
tu fais du très pointu, soit tu
éditoriale.
Fais du très très grand public.
Ou ligne éditoriale. Nous sommes désormais une émission médiatique, c'est très intéressant. Mais...
Alors je tape du poing sur la table, excusez-moi, est-ce qu'on peut arrêter de faire des émissions?
On finit là-dessus.
Ok, avec des jeux de mots, c'est un mal français le jeu de mots. On n'en peut plus des jeux de mots, ok. Non, c'est vrai, il faut arrêter.
Mais c'est pas pour ça qu'on l'écoutait pas, tu sais.
Mais d'accord, mais c'est tellement ringard.
Donc, voilà. On renomme Studio 404 en POC Me and Famous et tout ça, non, tu veux pas ?
Non, mais je serais tellement triste.
POC Face, non ? POC Face, tu veux pas ?
Voilà, stop.
Non ? Bon, ok. Bon. On va attaquer le troisième sujet de Mélissa Bounois, sans aucun jeu de mots.
Sujet numéro 3.
J'ai testé Hello, j'ai dit. Bye bye.
Ouh. Et oui, il y a un jeu de mots. Surprise. Voilà, Fibre.
Ah, merde.
Je voulais
Fibre,
te la faire.
Tu veux partir maintenant.
Voilà, un petit jeu de mots. Mélissa dit goodbye à Hello, c'est incroyable. Voilà, ouais. On revient très rapidement sur Hello, tu vas nous le dire, mais voilà, c'est le dernier réseau social à la mode depuis quelques jours.
Mais à la mode.
Et tu dis déjà goodbye à Hello.
Oui, parce que nous sommes en 2014 et que je me suis encore inscrit à un réseau social, donc c'est un peu, je me sentais un peu comme en 2007.
Oui.
La seule nouveauté, en fait, c'est qu'il est sorti en 2014. Parce que, j'y suis allée, hein, j'ai pris ma petite souris et j'ai cliqué.
Alors, Hello, c'est quoi ?
Hello, c'est un truc qui a un nom pas mal, parce que Hello, franchement, ça aurait pu devenir addictif en 2007.
D'accord.
Sauf qu'on n'est toujours pas en 2007. On n'est toujours plus en 2007. Hello ne veut pas faire comme les autres. Cet argument est à peu près cité par tout le monde qui lance un site aujourd'hui. Nous sommes différents.
Nous sommes différents.
C'est un réseau social sans pub.
Ouh.
Ta-da ! Grosse révolution. Parce que la pub, c'est le mal. Et là, je me tourne vers mon ami Sylvain, qui aime la pub. C'est le seul ici. Mais...
à chaque fois, tout le monde s'en prend Sylvain.
Mais c'est
même,
grâce à lui que nous gagnons de l'argent, nous, médias.
La pub t'aime aussi, Mélissa.
Tout le monde en parle comme l'anti-Facebook, en fait, parce que c'est là que les drag queens sont allés se réfugier quand Facebook a mis fin à sa politique de pseudonymat. Donc, en gros, vous ne pouvez pas trop prendre des pseudos maintenant, désormais, sur Facebook.
Donc, t'es obligé de t'appeler Clément Clément et pas
Stiny Glamour 18.
C'est un nom de drag queen, c'est génial. Je trouve ça très drôle.
Merci, Sylvain.
Donc, Hello, c'est posé comme l'anti-Facebook.
Voilà, l'anti-Facebook. Ouais. Sauf que l'anti-Facebook, en fait, c'est aussi la façon dont on a présenté tous les derniers réseaux sociaux qui sont lancés, et compris un peu d'ampleur. On peut se souvenir de Diaspora qui a été fondée en 2011.
Diaspora, les 7 très belles heures de ma vie.
Qui est devenu un site communautaire en 2012. Entre-temps, le fondateur s'est suicidé. On ne sait pas si c'est un rapport avec l'échec du projet. Je ne me souvenais pas non plus de app.net. C'est une collègue à moi, Amandine Schmidt, sur le Nouvel Obs, qui m'a rappelé l'existence de ce site.
Pour toi, Amandine.
Non, mais parce qu'elle a fait un papier sur le sujet, donc il faut que je la cite, quoi.
Transmédia.
App.net avait aussi fait un manifeste au lancement en disant non, on ne va pas faire de pub. On est contre les conditions de vie privée qui sont un peu trop dégueulasses pour les utilisateurs. Il y a eu encore PASS, qui était un réseau où vous pouvez avoir un nombre limité de contacts.
PATH.
Ah, oui. PATH. Unthink, dont je ne me rappelais absolument pas non plus. L'existence.
Ouais.
Et bien sûr, le chouchou de Sylvain, Google+. Malheureusement, une étude récente nous a montré que les internautes y passaient en moyenne 7 minutes par jour contre quelques heures sur Facebook. Bon, revenons quand même à Hello. Ce qui m'a séduit en Hello, en fait, c'est le message, parce que pas de pub, c'est cool. Parce qu'en fait, sur Facebook, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui me fait chier, c'est que maintenant, je vois plus rien qui m'intéresse.
Ça commence à devenir un peu bordélique, ouais.
Et puis en plus, Hello, le petit design épuré, blanc, noir, un peu hipster qui va bien, quoi.
C'est très très moche.
C'est très très moche, en fait.
Ah, il y en a qui aiment.
Mais bon. MS-DOS, messieurs, dames.
Et puis, il y a toujours le piment de le site est en bêta, et donc t'as toujours envie d'aller tester un site en bêta de nos jours.
En fait, le site devrait rester en bêta tout le temps.
C'est ça. Bah, comme Gmail, en fait.
Bah oui, c'est vrai.
Qui n'est plus en bêta, mais depuis assez peu de temps. Donc j'ai créé mon compte, j'ai squatté l'URL mise près, j'ai fait joujou avec toutes les fonctionnalités, j'ai pris mes premiers réflexes, comme sur Twitter, Facebook, j'ai updaté ma bio, j'ai cherché des amis via les autres comptes que je trouvais, parce qu'il n'y a pas encore de trucs pour connecter vous avec vos amis.
Ouais.
J'avais changé ma profile pic, mis une belle photo de couverture qui est en grande taille, c'est super. Ouais. Et j'avais fait un statut « Coucou, on se sent comme en 2008 ici ».
En fait, t'as fait comme on fait sur Facebook ou sur Twitter. Quand
en fait, j'avais tous les réflexes de Facebook et Twitter, donc il n'y avait rien qui avait changé. Donc j'ai envie de dire à Hello, bah écoute, tu fais chier Hello, parce que c'est cool de ne pas pouvoir mettre de pub, mais en fait, tu ne changes rien à ce que je...
Usage
à
disruptif.
À mon usage sur Internet.
Cette disruption, cette
c'est
recherche.
Cool, t'es en noir et blanc, tu ne vas pas contrarier ma lecture. De toute façon, pour l'instant, il n'y a à peu près rien du tout sur Hello, sauf les derniers qui se disent encore au bout de 5 jours, oh, attends, il y a un peu d'audience, on va chercher du clic. Donc toute la presse s'est excitée, on a fait des papiers, oh là là, c'est le nouveau réseau social, oh là là, c'est le anti-Facebook, oh là là, celui-là, il pourrait bien marcher parce que quand même, il est noir et blanc et c'est peut-être joli. Sauf qu'en fait, on s'est vite rendu compte que les conditions d'utilisation, il y avait quand même des trucs un peu douteux qui faisaient que peut-être un jour, ils revendront des trucs à des parties tiers.
Mais peut-être.
Et surtout, on s'est dit comment ils vont faire sans mettre de pub, vu qu'ils n'ont aucun budget face à des réseaux sociaux qui ont des énormes budgets et qui donc peuvent rendre l'expérience beaucoup plus user-friendly. Donc on est en 2014, et donc comme sur Facebook et sur Twitter qui ont explosé en 2007, j'ai exactement les mêmes usages. Et on essaye de marketer le truc comme si ça allait révolutionner ma vision d'Internet.
Marketer un truc sans pub.
Voilà. C'est essayer de vendre le truc comme de la disruptive innovation. Ce mot horrible qui dit juste on va changer naviguer sur Internet.
Disruption profonde.
C'est un peu comme cet Apple Watch qui en fait risque d'être juste un petit écran d'iPhone. Donc là, aujourd'hui, on s'excite sur un site en noir et blanc sans modèle économique. Donc si toute cette énergie en fait pouvait être... Je sais pas, ils pouvaient servir à faire quelque chose, quoi. À disrupter nos usages, à faire des voitures qui se vendent aussi bien qu'un iPhone. Peut-être qu'on s'en sortirait. Par contre, je voudrais vous parler justement du coup du truc qui a changé notre façon de fonctionner, parce que ici, on peut tous en parler. C'est un service de chat qui s'appelle Slack.
Ouais.
Cette émission a été organisée sur Slack, et Slack est donc un service de chat, donc aucune révolution là-dedans, sauf que en fait c'est tellement bien fait, l'interface c'est tellement bien faite, et surtout ça imbrique tellement de services qu'on utilise par ailleurs, qui font venir les Google Docs, Dropbox, les GIFs, les vidéos.
Surtout les GIFs.
Qu'en fait, on n'a plus envie d'en sortir et on n'est plus retourné au mail, sauf quand Fibre a voulu nous envoyer les audiences de l'émission, mais qui s'est planté sur l'adresse mail de Daz. Du coup, on a parlé de ça sur Slack. Et donc, en fait, on passe beaucoup plus de temps sur Slack. Et c'est un peu le dernier truc, je ne sais pas pour vous, mais qui a changé ma façon, en tout cas, de communiquer sur Internet. Pas de naviguer sur Internet, mais en tout cas de communiquer. Et donc, si, disons, Hello avait amené ça, peut-être que j'y serais resté, mais pour l'instant j'ai vraiment envie de dire goodbye Hello.
Ok, goodbye Hello, salut Slack.
Salut Slack.
Salut
Vive
Slack.
Slack.
Slack, vous irez voir,
c'est si vous cherchez une agence pour créer des slogans. Studio 404, nous c'est service.
Non mais ce qui est génial avec Slack, c'est que personne n'en a parlé parce que justement comme c'est un service de
ils
chat,
ils ont zéro pub.
Tout le monde a dit bah oui c'est un service de chat, bon, c'est pas l'anti Facebook. Sauf que là, Wired a fait cet immense papier sur le patron et que les gens commencent vraiment à l'utiliser dans les médias. Donc, là,
donc Mélissa, pour toi, le problème de tous les nouveaux réseaux sociaux, enfin pour nous utilisateurs, c'est qu'ils n'apportent rien à part de se poser en être des poseurs finalement.
Non mais un réseau social c'était nouveau en 2007. Un réseau social ça peut pas être nouveau en 2014, 7 ans après. En internet, en temps d'internet c'est un siècle.
Hashtag Daz. Ingratitude. C'est ce que j'utiliserais pour qualifier votre comportement, n'est-ce pas? Hashtag ingratitude. Parce que...
Attends, toi je t'ai dit que t'es même pas allé sur Hello.
Mais j'y suis même pas allé. Bah, déjà parce qu'il faut être invité et que moi on m'invite pas, c'est le principe, je reste à la porte.
Mais t'as pas demandé d'invitation.
J'ai pas demandé, voilà. C'est vrai. Non mais on a des gars. Là, je repense à Apple et son album de U2 qu'il a forcé sur tous les smartphones de tout le monde. On vous offre un truc, on vous demande rien, vous faites la gueule. On vous propose un réseau sans pub, vous faites la gueule. Alors vous utilisez un réseau qui est blindé de pub et vous faites la gueule. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait?
Ah, pas con.
Mais non, mais le truc, c'est que le réseau qui a de la pub, on y est depuis le début. Moi, je vous le dis à chaque émission, j'ai envie de me casser de Facebook. Sauf que c'est là que tous les événements sont organisés, c'est là que j'ai tous mes nouveaux contacts.
C'est quoi,
enfin,
c'est mon carnet de contacts, c'est la pub.
Non, c'est mon carnet de contacts qui me plaît.
Non, mais ce qui m'énerve, c'est la pub.
Voilà,
parce que là, il y a des gens qui disent, bah, je réponds à ton problème, qui est celui de beaucoup de gens, j'enlève la pub.
Le problème, c'est que mon carnet de contacts, il est pas dans Hello pour l'instant.
Mais il faut que les choses se fassent.
Il va mettre genre 3 ans à y arriver, non? Parce que toi,
tu veux laisser sa chance à Hello. Donc là, s'il n'y a pas, laisser sa chance.
Je le dirai pas.
Tu peux le redire, Sylvain, à voix haute.
C'est Fibre qui a parlé, arrêtez.
Qui a essayé Hello? J'ai un peu essayé, moi, personnellement. Il y en a dans certains d'entre vous qui ont essayé ou qui ont un peu étudié le sujet de ce réseau social qui, on l'a vu, hein, il a explosé et d'après les sites de, d'après les courbes de mesure, c'est en train de retomber comme c'est monté à peu près.
Bah, normal.
Moi, j'ai un petit hashtag aussi. Hashtag Julia Roberts.
Ah,
est-ce que vous connaissez cette pub de Julia Roberts? Il y a Julia Roberts qui rentre dans une cérémonie UP et elle dit, loin d'un monde de dictates et de conventions.
Oui.
Alors qu'il n'y a pas plus conventionnel que Julia Roberts de trucs. Et en fait, Hello, c'est exactement ça. C'est-à-dire, Hello, ils sont arrivés avec un manifeste. Un discours politique en disant, mais attendez,
nous
ne sommes pas le grand capital. Et on a appris qu'ils étaient financés, qu'ils allaient, ils se réservaient le droit de faire les mails. En fait, ils étaient le Facebook, mais déguisés en diable. Et en fait, Sarkozy revient.
Déguisé en ange.
Oui, voilà, en ange. Nous, un filou qui vient comme Facebook, comme. Voilà. C'est un filou, on est content de travailler avec lui, mais un ange qui se déguise en filou, filou déguisé en ange, ça nous pose problème. Et c'est ça le gros problème de Hello, c'est que s'il n'y a pas de contenu, c'est que les gens ils se disent, mais ce que je dis, qu'est-ce qui va se passer?
Non, alors moi j'ai juste une question là.
Alors Daz encore.
À quel moment on doit s'intéresser au modèle économique du truc qu'on utilise? À quel moment est-ce que ça nous regarde? À quel moment est-ce que ça nous concerne?
Moi, je m'en branle.
Quand je roule dans une Peugeot, j'en ai rien à foutre du modèle économique de Peugeot. Je m'en tape. Moi, je roule dans le truc que j'ai acheté.
Si tu savais que Peugeot, par exemple, je sais pas, imaginons que Peugeot, en fait, envoie toutes tes données, parce que le gros débat, c'est aussi la vie
privée. Mais on n'est pas naïf, la MUA, enfin.
D'accord. Non, mais donc ça pose pas de problème.
Objection. Moi, l'iPhone, le fait que ces conditions de construction et ces conditions de récupération de matières premières, bah, personnellement, ça me pose un problème déontologique. Et j'ai un iPhone, mais ça me pose un problème moral, quoi.
Mais tu as un iPhone.
J'ai un iPhone.
T'as une morale.
Émission de
j'ai un iPhone, mais je souffre un petit peu. Voilà.
Mais un petit peu.
Mais il faut le dire. Et s'il y a quelque chose de qui a 80% aussi bien que l'iPhone, je penserais sur. Parce que 80%, s'il y a les conditions déontologiques.
Si on s'appuyait vraiment là-dessus, si on regardait vraiment ça, tout le monde quitterait Facebook tout de suite. Donc je comprends même pas où est le problème.
On aime bien s'enflammer pour des conneries. Là on s'est enflammé parce que il y a un mec qui a découvert qu'il y avait un Google Analytics sur le site Hello, quoi.
Ouais.
allô quoi.
Allô.
Non.
Je l'ai fait.
C'est bon d'avoir un Google Analytics, il n'y a pas de problème. Mais non, je vais faire un article de blog en dénonçant le truc, en disant oh là là, ça va pas du tout avec votre manifeste, vous nous traquez. Bah non, on mesure notre audience. D'accord, je sais pas, ça peut nous aider peut-être à acheter des plus gros services.
Est-ce qu'à la fin, comme tu dis, Hello, c'était surtout un moyen de, encore une fois, c'était un moyen de remplir des pages et de tromper l'ennui d'Internet en disant on va s'enflammer pour un truc avant de l'enflammer tout court.
Parce que l'Internet ne se réjouit plus tant que ça.
Ils avaient un joli nom de domaine.
Si, l'Internet s'est réjoui pour Slack. Il y a vraiment. Et d'ailleurs, Slack, le business model est important parce que Slack est un service payant qui coûte assez cher. Et les gens le.
Oui, mais c'est réjoui de manière assez silencieuse parce que, entre nous, on n'en a pas parlé dans une émission. Enfin, tu vois, il n'y a pas eu de papier dans la presse française en tout cas qui disait genre Slack, c'est génial. Enfin, c'est le nouveau truc où il faut que vous soyez.
Bon, promis, on vous parle de Slack dans la prochaine émission. Ouais. Allez, une dernière fac.
F-A-Q.
Incroyable, une fac qui a un rapport avec la chronique. Bon, non, presque. C'est Nicolas Alpache qui nous pose une question et qui nous demande, c'est un petit tuto, hein, coucou les filles, hashtag le tuto. Quel est selon vous le meilleur moyen de réussir son suicide social sur les réseaux sociaux? Si vous deviez partir en flammes, comme ça, quelle serait la plus belle explosion ralentie Michael Bay que vous feriez pour vraiment... tout explosé. Est-ce que vous direz fuck you à votre mère sur Facebook avant de quitter? Est-ce que vous unfollowerez tout le monde? Est-ce que vous enverrez une photo de votre free par TweetPic? Que feriez-vous pour faire un très très beau suicide social, un truc dont vous ne le relèverez pas? Je vous laisse un peu.
Je me suiciderai en emportant le plus de monde avec moi. Moi, je veux faire un temple du soleil. Moi.
Donc, genre, est-ce que tu te suiciderais, par exemple, en ouvrant l'accès à tout le monde à la fameuse ligue du LOL?
Un truc comme ça, ouais. Je sais pas.
Tu ferais des screenshots.
Non, mais je montrais un service d'échange de messages anonymes et je balancerais tous les logs à la fin, tu vois, un truc comme ça.
Un
peu comme Snapchat ou Secret où les gens récupèrent des infos qui ne sont pas censées être.
Exactement.
D'accord. Un beau bordel. Une petite Tyler Durden, quoi.
Voilà. Exactement.
Un truc flamboyant.
Ouais.
Alors, vos chers collègues de Sylvain, comment partiriez-vous?
Bah non, mais en décidant d'être honnête avec tout le monde d'un seul coup, en fait.
Ça, ce serait bien. Mais moi, tous les jours, je me le dis. Je me dis, putain,
d'ailleurs, on revient à ça. Alors, mais là, il y avait des moments où t'avais essayé de jouer un peu la carte de l'honnêteté sur les réseaux sociaux et personne ne te croyait. Tout le monde te demandait ce qui se passait.
Ah oui,
non, tu te rappelles de ça. Voilà.
Oui.
Oui.
Voilà, donc c'est bien la preuve que quand quelqu'un est foncièrement et complètement honnête sur les réseaux sociaux, on comprend pas.
Ah, beau suicide.
C'est des ennemis.
Donc droit dans tes bottes, mais les pieds devant, quoi. C'est partira comme ça. C'est beau. C'est beau.
Tu le ferais presque, cela dit.
Mélissa, comment partirais-tu si tu devais quitter les réseaux sociaux?
Si moi je devais partir, parce que je pense que la meilleure façon de faire un suicide social, c'est genre d'être raciste sur les réseaux sociaux. Tu dis un truc raciste et là c'est fini pour
toi,
quoi.
C'est pas con, ça.
J'y vais sur Hello parce qu'il y a que du blanc.
Genre moi, si je voulais me suicider, je ferais un gros truc sexiste sur une nana à la télé. Et alors là,
un
bam,
truc anti-féministe,
Là, c'est bon, quoi.
Ouais. Ou tu peux juste développer un jeu vidéo et te faire menacer par tout le monde sur Twitter aussi, c'est à la mode en ce moment.
Ouais, mais ça, okay. C'est pas moi qui le
demande. Donc, un bon gros truc raciste sexiste pour partir comme ça, bien enflammé.
C'est une bonne méthode.
Fibre.
Alors, je rebondis sur ce que dit Mélissa.
Ouais.
On peut même aller plus loin, ça ferait une très bonne chronique. Peut-on se suicider socialement sur les réseaux?
Ah, tu penses que tu n'y arriverais pas, toi?
Parce que, en fait, il faut pas oublier la faculté d'oubli des réseaux sociaux. C'est-à-dire, tu peux dire le truc raciste.
Comme en politique.
Et deux mois plus tard. Tout est oublié,
Tu peux dire j'ai changé.
Genre Éric Besson qui a fait un DMFL de malade, des tas de choses qu'on oublie ou qui se passent tous les jours. Et je pense que la seule façon possible de se suicider socialement, c'est de partir. C'est-à-dire vous effacez votre compte et vous revenez plus jamais sur Internet.
Donc toi, tu partirais discrètement en rangeant bien, en fermant toute la porte.
C'est la seule façon. C'est-à-dire au contraire, si vous faites s'il est honnête, demain il va avoir un article sur dans le Gorafi, par exemple, parce que c'était le cas et ainsi de suite.
Les news du respect, les news de l'honnêteté.
Voilà, c'est ça.
Donc, d'accord.
Silence.
Quatre méthodes quand même, hein, différentes.
Oui, c'est bon. On finit sur le silence de Fibre. Allez, la toute dernière chronique avec Daz.
Sujet numéro 4.
Les jeux vidéo réalistes, la pénibilité en récompense.
Alors, ne cherchez pas, chers auditeurs, il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a pas de contre-pétrie dans le titre de ce sujet, mais il y a beaucoup à dire.
Il y en aura dans la chronique.
On va parler de jeux vidéo, mais qui sont des simulateurs assez hardcore dans des sujets assez différents, mais dont le point commun est d'être très très proche de la réalité jusqu'à que ça on enseigne.
Ouais. Ouais, parce qu'on parle pas assez en fait de la simulation, on parle souvent du casual gaming en mal, oui. pour tailler un peu les gens, mais on parle jamais des simulateurs qui pourtant sont là depuis que le monde est monde. Je l'ai placé. Et enfin, c'est pas totalement vrai hein, puisque assez régulièrement les simus donc c'est le petit nom des simulateurs les gars, vous inquiétez pas, on les critique pour leur apparente austérité, pour le caractère no life des gens qui y jouent. Et là moi telle une courbe je me gausse.
Oh mon Dieu.
Mathématicien.
Celle-là, elle était pour toi, Fibre.
Puisqu'on taxe de nos lives oh là là. Des gens qui jouent à des titres dont le seul objectif est précisément de refléter la vraie vie de la façon la plus fidèle possible. Alors, c'est qui le no life, hein? Parce que les gars, je vous l'apprends, mais la vie, c'est pas toujours fun. La vie, c'est parfois austère. Surtout quand on habite dans le nord de la France. Et pourtant, malgré ces problèmes.
Tant de gratuité.
Malgré ces problèmes, on continue à jouer à la vie tous les jours. Et c'est précisément parce que les simeurs ne sont pas de ces lâches qui préfèrent se réfugier dans un monde acidulé où les plombiers font du karting et où les enfants attrapent des monstres de poche qu'ils ont le droit au respect, comme le demande Aretha depuis 1965.
On vous mettra tous les liens Wikipédia
parce que pour un simeur, donc le simeur c'est celui qui joue un simulateur, pour un simeur, un jeu de plateforme c'est avant tout un titre qui propose de prendre le contrôle de puits de pétrole offshore en mer du Nord. Faut juste le rappeler. Alors c'est sûr, simulateur c'est pas fun, mais les gars, piloter un avion au-dessus de la Crimée, c'est pas fun à la base.
Hein, ça dépend.
Alors là, les gens vont me dire, mais ok, mais pourquoi vouloir piloter un avion au-dessus de la Crimée d'abord ? Bon, là, ma réponse honnête serait pour être capable de me démerder en cas d'apocalypse ou d'invasion zombie, bande d'idiots. Gagner à Mario Kart ne vous sera d'aucun secours en fait. Mais pour pas passer pour un déglingo qui se prépare tranquillement dans son salon au jugement dernier, je vous répondrai. Pour être au plus proche des vicissitudes du travail de nos pilotes qui risquent leur vie à défendre la nôtre. En gloire, honneur et patrie. Mais blague à part, l'exaltation et le sentiment du devoir accompli ne sont jamais aussi forts que quand on a passé 25 minutes à démarrer un avion, à calculer une solution de tir de torpille ou à trianguler avec une carte et une boussole la position d'une escouade d'abrutis qui s'est paumée dans la pampa. Tout ça, c'est du vécu. Et puis, les adeptes des simus sont des gens qui aiment aller plus loin que ce que prévoit le script. Un petit exemple. Juste mise en situation. Vous jouez à Ace Combat de Namco, c'est un jeu d'avion,
ouais.
Sur console, donc déjà je vous respecte pas. Vous jouez à Ace Combat avec votre pad, vous avez fuel et missiles illimités, alors attention, vous aurez seulement que 45 ou 55 missiles si vous jouez en mode difficile, sur votre avion donc F-42 qui n'existe pas. Sitôt l'objectif principal détruit, un mission accomplie s'imprime sur l'écran et hop, vous êtes au QG pour le débriefing et vous préparez à la prochaine mission.
Bah, c'est très bien.
Ça c'est Ace Combat. Maintenant dans Falcon ou dans DCS, avec votre stick réplique authentique de celui d'un vrai chasseur qui vous a coûté 500 €, vous volez en serrant les fesses, réfléchissez à votre réserve de kérosène pour savoir si vous vous octroyez ce petit crochet pour balancer des munitions à l'uranium appauvri sur des fantassins serbes, un petit plaisir coupable. Vous traitez l'objectif principal, c'est comme ça qu'on dit défoncer l'objectif principal. Et ce n'est qu'une fois le coucou posé et rangé par vos soins dans son hangar que vous vous direz à vous-même « Mission accomplie, hi-ha !» puisque personne n'aura pensé à coder le « Mission accomplie » qui s'affiche à l'écran. De ces deux expériences, je vous le demande franchement, laquelle est la plus jouissive, sans déconner. Et ouais les gars, les simulateurs, ça applique aux jeux vidéo un adage connu depuis belle lurette dans les milieux BDSM, c'est la contrainte qui procure le plaisir. Mais alors attention, si les adeptes des simulateurs apprécient un univers réaliste, ils veulent surtout et avant tout un univers cohérent. C'est-à-dire qu'on peut aussi parler de science-fiction, de vaisseaux spatiaux, machin, etc. Tant que ça se tient,
d'accord,
ça marche.
Donc on ne singe pas forcément la vie vraie.
Non, c'est pas forcément la vie vraie, il faut juste que ça soit cohérent. Donc là, depuis, on va dire, depuis le début de... depuis 2007, 2006 même, les jeux modernes qu'on trouve sur console utilisent tous maintenant ce qu'on appelle un moteur physique.
Oui.
Donc type AVOC, c'est le plus utilisé, pour simuler les réactions physiques réalistes dans l'univers qu'on aborde. Donc par exemple, je tire une balle dans le jeu de Nati, puis il s'écroule de façon un peu réaliste, machin, etc. Mais ces jeux-là, en fait, prennent souvent pas mal de liberté avec une ou plusieurs variables de cet univers, et ça énerve. Ça nous énerve parce que pour un simmer...
Vous devez être très énervé dans la vie, les mecs. Hein.
Un simmer qui se retrouve dans des caves, on est vénère, les gars.
Mais parce que pour un simmer, un jeu comme ça qui est super réaliste et puis qui, au dernier moment, en fait, tu te rends compte que tu peux regagner de la vie en te planquant derrière une caisse.
Ouais.
Pour nous, c'est exactement comme regarder un film dans lequel on s'aperçoit que les Chinois qui font des saltos à l'écran, en fait, ça fait un quart d'heure qu'ils se tirent dessus avec un seul chargeur.
Ouais.
Tu vois, ça te casse un peu le délire. Tu dis, c'est super, mais
Donc quand on parle de cohérence, c'est qu'il faut que ce soit réaliste de bout en bout.
Bah, ça serait quand même un peu mieux.
D'accord.
Mais il faut quand même qu'il y ait un petit côté, un petit. Enfin, je sais pas, moi, je Enfin, je dis ça, mais la preuve, hein, de toute façon, c'est que les FPS, donc les first person shooters, type Battlefield, Call of Duty, etc., ils proposent des réglages dits hardcore dans leurs titres pour se rapprocher un peu plus de la réalité. Je fais les guillemets avec les doigts, si vous ne voyez pas.
Merde, il faudrait que la
et ce simple fait de savoir que Electronic Arts ou Activision finalement font cela, c'est-à-dire qu'à un moment donné, leur jeu qui est complètement fantaisiste, ils décident d'enlever les compteurs de balles, d'enlever les réticules de visée et de faire en sorte que bah, si tu te prends une balle, t'es mort. Ça permet de confirmer donc que la vie normale, la vie réaliste, elle est bel et bien hardcore. Ce qui valide la théorie défendue par tout le rap français depuis à peu près 20 ans. Et là, c'est le paradoxe en fait, parce que il y a beaucoup de gens qui regardent le monde de la simulation avec, au mieux de la défiance, au pire de la condescendance, mais qui vont jouer à leur jeu en mode super méga hardcore, type Dark Souls ou ces machins-là, ou alors qui vont passer 8 heures à théoriecrafter la mécanique du jeu pour essayer de tuer le système, de niquer le système. Et donc
comme
moi,
l'art français, pardon.
À cela, je leur tends donc mon rameau d'olivier, fraîchement coupé après un tir d'artillerie sur les reliefs escarpés de Stratis dans Arma. Et je vous dis, les gars, au lieu de jouer en hard à des jeux d'abrutis, venez jouer en normal à des jeux pointus.
C'était l'invitation de Daz.
Mais oui, venez, les gars. Oh là là. Il faut des gens sur les serveurs.
C'est surtout ça le problème, c'est que dans la vraie vie, on n'est pas aussi seul que sur le serveur, parce que des fois, c'est un peu, c'est vrai que vous êtes au sommet de la chaîne alimentaire du jeu vidéo, mais vous êtes un peu seul.
Ouais, mais on sait démarrer des avions.
Oui. Mais bon. Moi, j'ai joué une fois à Arma ou à DayZ, puis c'est un peu dur de courir dans la campagne pour rejoindre tes potes et puis en chemin mourir d'une infection de la cheville parce que tu t'es tordu la cheville en sautant d'un rocher 50 cm haut. Parce que
il ne faut pas courir. Tu ne cours pas quand t'as un sac à dos de 50 kg sur le dos. Tu ne cours pas, tu sautes pas sur des cailloux.
Est-ce que cette vie ascétique, cette vie vidéoludique ascétique que vous propose DAS, qui est aussi un paradoxe.
Mais c'est pas ascétique. Les simulateurs sont souvent les jeux les plus beaux.
Surtout les simulateurs de lanceurs de missiles hongrois.
Ouais. Oui, alors celui-là,
tu nous as pas donné d'exemple de jeu, mais ouais, il y a Flight Simulator de Microsoft qui est très connu.
Il y a Flight Simulator, il y a DCS que j'utilise. Voilà, moi, c'est celui auquel je joue, c'est un truc d'avion. Il y a Harpoon qui est un simulateur, un wargame complètement fou en fait.
De sous-marin.
Non, Harpoon, c'est tout. C'est une guerre, la guerre mondiale en mode géostratégique. Enfin, c'est un truc. Ça ressemble plus à un tableau Excel qu'à un jeu. Donc même moi, je le regarde de loin. Non, mais il y a sa version moderne.
Tu passes ta journée sur Excel et PowerPoint. Le soir, tu rentres chez toi, tu fais Harpoon là.
Non, mais il y a la version moderne qui s'appelle Command Modern Air Naval Operation.
Ouais.
Voilà, donc c'est assez violent. Il y a European Bus Simulator, il y a Euro Truck Simulator qui. Je sais que les gens regardent Euro Truck Simulator à chaque fois qu'ils le voient passer dans Steam en se disant vas-y je l'achète.
Clair. Alors Euro Truck Simulator c'est un simulateur de semi-remorque hein, quand
c'est
même.
C'est ça, donc tu dois faire des livraisons dans toute l'Europe, c'est génial. Non, ouais. Voilà la condescendance.
Une des meilleures ventes en Allemagne.
Ben évidemment.
Non, mais les Allemands
meilleur pays du monde.
Pour reprendre la formulation de Daz, comme le BDSM, les Allemands ont des goûts.
L'histoire avec la contrainte.
Après, pour revenir au point que citait Fib, je suis d'accord que le jeu qui s'appelle SAM Simulator, donc c'est un simulateur de batterie de missiles antiaériens, c'est développé par des Hongrois. L'interface, c'est juste des potards qui font piou-piou et des trucs en cyrillique. Je peux comprendre que ça rebute 2-3 personnes. Je suis d'accord. Ça, je comprends tout à fait. Mais entre ce truc-là qui est vraiment pour les anciens mecs qui ont fait la guerre en fait et qui s'emmerdent chez eux,
ouais.
Voilà. Et un DCS, il y a un monde quoi.
C'est-à-dire qu'il y a un monde entre les simulateurs hardcore et les simulateurs hardcore.
Ouais.
C'est comme Clément, t'as les simulateurs hardcore.
Ouais, il y a des simulateurs qui sont vraiment 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 hardcore.
Mélissa, à l'autre bout du spectre, mais alors,
l'autre bout, c'est-à-dire que. Tu serais loin, très,
deux fois
loin,
le tour de la planète. De l'autre côté du grand écart de Jean-Claude Van Damme.
Essaye de trouver une question
Mélissa
à poser. Non, mais, tu vois pas genre, en tant que noob, qu'est-ce que t'en penses?
Non, mais toi, mais donc, Mélissa qui n'est pas spécialement branchée jeux vidéo, ouais, mais qui des pas fois te dit, hey, je peux être tenté par certains jeux, tu me parlais de certains jeux qui pouvaient t'intéresser au moins
ouais,
à suivre, à regarder.
Est-ce que
tu peux comprendre l'intérêt et le plaisir sous contrainte que prend Daz et les simmers à travers le monde à essayer de faire un Paris-New York en pilote automatique parce que ça se fait comme ça dans la vraie vie, c'est-à-dire que tu ne fais rien dans l'avion à part le faire décoller et atterrir.
Celui-là, je ne le fais pas.
Ah, mais bon, il y a beaucoup de gens qui le font.
Parce que là, j'allais dire.
Il y a beaucoup de mecs dans leur garage qui refont des cockpits à identique. Est-ce que tu peux comprendre ce plaisir ou pas où tu dis, bon, ok, le jeu vidéo, je comprends, mais là, le jeu vidéo qui n'est même pas dans le fantasme du jeu vidéo, je ne peux pas comprendre.
Je vais essayer de faire comme Sylvain et de me dire. Non.
Il n'y a pas de dédicace à toi, Sylvain, ce soir. Hein.
Ce soir, c'est pour moi.
En fait, tout le monde t'imite.
Non, mais
ce soir.
C'est un truc. Ouais, moi, je ne le ferais absolument pas. Donc, je comprends que des gens le fassent, mais je ne m'imagine absolument pas passer des heures à faire ça. Vraiment pas.
D'accord. Pas du tout.
me perdre dans des jeux vidéo, je vous l'ai dit mille fois,
me
oui.
Perdre. Ah non, elle est d'accord, d'accord, oui. Elle est d'accord oui. Pour se perdre,
mais,
pardon.
Voilà, ça oui, mais...
Et te perdre enfin, vraiment au-dessus de l'Adriatique, non. C'est incroyable, ces gens.
Je vais perdre 3 heures une fois par an, et c'est tout, quoi.
D'accord.
Malheureusement, désolé.
Fibre, toi qui fais des jeux vidéo pas réalistes, qui a créé des jeux vidéo qui ne sont pas réalistes, qu'est-ce que tu penses de cette approche?
Alors,
est-ce qu'il faut de tout pour faire un monde?
C'est effectivement une question fondamentale et assez drôle. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui travaillent toute la journée au bureau avec des classeurs Excel, ils rentrent chez eux et ils font la même... Mais ils parlent de choses réalistes, mais vous savez, un Final Fantasy, c'est, aussi, c'est hyper chiant, hyper répétitif. Oui. C'est pire que d'être caissier à Carrefour. Et les gens font ça, ils en peuvent plus, c'est heureux. Et en fait, je crois que le jeu vidéo, comme les livres, comme d'autres supports, ça nous permet de vivre plusieurs vies.
Ouais.
Et parfois, la nana, elle est trop belle, on n'y croit pas, tu vois. Ouais. Et on a besoin que ce soit un petit peu, il y a un petit peu de contrainte pour que cette autre vie fantasmée, qu'on a, je veux être soldat, soldat, c'est pas vraiment Call of Duty, on le sait au fond de nous et on a envie d'avoir le sac à dos sur le dos et d'en chier un peu, quoi, pour vivre la vraie expérience de soldat. Comme ça, tu te couches le soir et tu dis, j'aurais pu être soldat et voilà. Et il faut voir aussi
que. C'est de la gratification, hein.
Nous, les hommes. On aime le challenge, on aime les classements.
Alors que les femmes, on aime
être numéro 1, on aime avoir la plus grosse. Et parfois un classement, ça suffit pas. Être numéro 2, 3, on sait pas trop. Quand on dit on a fini Dark Souls, on l'a fini, tu vois.
Dark Souls, c'est un jeu d'action.
C'est un jeu d'action très difficile. On a fini. Moi, j'ai fini. Par exemple, tu dirais, j'ai fini Arma ou j'ai fait mon Paris-New York en faisant un atterrissage parfait avec un petit décrochage à la fin sur Flight Sim. Bah, tout de suite, tu donnes ta carte de visite. Quoi.
Les mecs sont en train de parler entre puristes là.
Ouais.
Les mecs sont là, petit clin d'œil.
Sylvain, alors.
Moi, je trouve ça fascinant, moi.
Oui.
C'est fascinant.
Fascinant en tant que spectateur ou fascinant au point où tu voudrais en être un acteur?
Ah, moi, il m'a fait très envie de Daz.
Ah oui.
Je vais essayer un truc. Je vais essayer Arma, un truc comme ça, je pense.
Arma, tu vas rigoler.
Ça a l'air très très excitant et c'est très marrant parce que c'est là que tu te rends compte que, en fait,
Sylvain, toi, t'es un joueur, Sylvain.
Moi, je suis un joueur. Et en fait, en théorie des jeux. C'est l'instant Wikipédia.
L'instant théorie des jeux.
À la base, un jeu, c'est pas forcément fun.
Ouais.
C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est une sorte de laboratoire de la vraie vie où on peut tenter plein de choses parce qu'on peut pas mourir en fait. On meurt pas. Si on perd dans la vie, on meurt. Dans un jeu, on peut perdre sans mourir, c'est bien.
D'accord.
Donc je trouve que c'est très très intéressant d'avoir cette contrainte du simulateur qui montre qu'un jeu, c'est pas forcément un truc fun en fait.
D'accord.
Ça peut être un truc contraignant et réaliste.
Donc tu vois une sorte d'utilité en fait.
Ouais.
Une sorte de leçon de vie.
C'est une leçon de vie.
C'est pour ça que les gars, ils apprennent à piloter des avions sur des simulateurs et pas sur Pilot Wings. Hein. Je veux dire, Air France, on fait du sim, hein, les gars. À un moment donné, faut être sérieux, quoi. Merde.
Et toute dernière chose, Vaz, pour qu'on finisse. Ouais. Est-ce que des fois, j'ai l'impression aussi que beaucoup de gens qui sont des simmers sont des frustrés.
Ils sont complètement fous.
Des mecs qui n'ont pas pu être. Le mec, il voulait être pilote d'avion ou astronaute toute sa vie, alors, puis il a eu 9 sur 10 à un œil et 10 sur 10 à l'autre, il a été recalé, alors, il est frustré, et du coup, il s'est refait son cockpit à l'échelle 1 dans son garage, et machin.
C'est vrai, mais par exemple, quand j'ai commencé à jouer à un jeu qui s'appelait Ghost Recon, qui est un jeu d'Ubisoft, donc un FPS d'infanterie, je cherchais des clans.
Oui.
Parce que c'était quand même plus facile de jouer en clan. Et c'est donc un jeu qui se voulait un peu réaliste, mais qui est quand même à 10 000 lieues d'un Arma, par exemple.
Mais qui à l'époque était considéré comme assez
réaliste.
À l'époque,
il était assez réaliste, et les gens, effectivement, voulaient qu'on les appelle par leur grade. Donc le mec s'appelait Colonel Jean-Michel, il était chargé du recrutement. Je suis parti en courant, hein, mais.
Colonel Jean-Michel,
c'était complètement fou. Mais je veux dire, sur ce jeu-là, sur cette communauté-là, t'avais tous les spectres, justement. Tu avais des plus furieux du GIGN qui en mettent une couche le soir quand ils sont à la maison,
putain,
à des mecs qui étaient complètement relax et totalement cool comme nous ici au studio 404. C'est pour ça que si j'avais rencontré que des gens comme ça,
oui,
dès le départ, c'est vrai que j'aurais rapidement...
D'accord, donc là tu démines un mythe du simmer, c'est pas forcément un frustré qui vit ce qu'il ne peut pas vivre.
Au contraire, il y a des mecs qui sont même super intéressants, parce que c'est pas forcément de la frustration. Il y a des types qui s'épanouissent parfaitement en étant mécano, et juste qu'on a envie d'aller un petit peu plus loin le soir chez eux en volant, mais ça veut pas dire qu'ils se disent, ah, j'ai raté ma vie, j'aurais pu être pilote et sauver l'univers. Ça, sauver l'univers, c'est ce qu'on vous fait croire à chaque fois que vous jouez à un jeu normal, les gars. Dans un simulateur de guerre, t'es responsable de ton unité et tu vas pas beaucoup plus loin. Hein. Tout ce qui se passe au-dessus, c'est en dehors de tes compétences, en fait.
Ok. Responsabilité, ouais, épanouissement et modestie, humilité.
Chacun à sa place, mais oui.
C'est le portrait du simmer. Bon, joignez Daz dans ces petits univers très
venez
chiants.
Venez sur DCS, on va rigoler.
Colonel Daz.
Allez, Colonel Daz. Une dernière fac, réaliste.
F-A-Q.
Allez, une dernière fac qui vient de NFKB. Je vous laisse déjà deux secondes pour trouver le patronyme.
Nathalie, ça doit être quatre prénoms. Nathalie, il faut
Alors, une question de NFKB alias Nathalie Fofouf-Coborivet qui me demande une question sur la mairie de Paris. Non, je déconne. Qui me pose une question sur le transhumanisme. Est-ce que vous êtes intéressé par le transhumanisme ou est-ce que le Techium ne passera pas par vous?
On en a beaucoup parlé hein, déjà, je
on
crois.
On a déjà fait une chronique, je crois que c'était Sylvain.
C'était Sylvain qui parlait.
Cette émission existe depuis tellement longtemps qu'on ne se souvient pas.
Moi, je me mets des choses dans le corps.
Mais on en a même parlé en live, il me semble aussi.
Tel un BDSM,
je me mets des choses dans le corps.
Je contraindrai.
Ok.
Nous sommes tous déjà transhumains. Vous êtes vaccinés à la naissance. Depuis Pasteur, on met des choses biologiques dans votre corps pour le renforcer. Voilà. Je pense que le transhumanisme sera la norme plus tard. Mais ce ne sera pas des petits robots dans le corps, quoi.
D'accord.
Il a fait un shutdown total, là. voilà.
Mélissa, déjà transhumain, les gars, c'est bon.
Bah, je pense que ça va être longtemps dans le sens cyborg, pas dans le sens on est vacciné. Ça va être longtemps à arriver, parce qu'on aura ces fameux débats sur est-ce qu'on a envie de modifier notre corps, blablabla. Il y aura des commissions,
est-ce que
des
trucs et des enquêtes. Est-ce que tu as envie d'avoir Hello embarqué dans ta tête?
Non.
D'accord.
Mais du coup, j'imagine que ça se fera, et je serai pour, mais je pense que ça va être longtemps.
Et il y aura des pubs.
Ah, à l'enfer.
Des pubs dans mon cerveau.
Le transhumain sera transmédia. Et je pars en Segway.
À 10, Sylvain.
Est-ce que avoir des implants en acier trempé sous le front pour faire des cornes, c'est du transhumanisme ou pas?
Non. Ça améliore pas ta vie.
Parce que t'as envie de ça.
Bah, ça peut-être que ça améliore la vie des mecs qu'on.
Mais ça lui irait bien, Daz, des cornes,
des trous dans les joues.
Ça serait de finalement.
Oui, non, moi je sais pas de. Je suis complètement adepte du progrès, donc je sais que quand ça sera l'usage standard, tout le monde le fera et on se posera même pas la question en fait. Donc.
Très bien, et ben moi je dis 100% pour.
Studio 404. L'émission de société numérique.
C'est la fin de ce studio 404. On était bien ce soir.
On était très bien.
On était bien entre nous, sous la lumière bleutée de notre studio secret. On a été condescendant avec les agriculteurs. On a été condescendant avec les créateurs de réseaux sociaux. On a été très très dur avec les gens qui jouent aux jeux vidéo normaux. Et on a tapé évidemment sur tous les grands patrons de presse et de médias qui veulent faire du transmédia. Bref, c'est l'émission
404, l'émission condescendante.
Radio.
Très très bien. Donc voilà, si vous cherchez des gens condescendants, des gens faciles, venez nous chercher. En tout cas, nous on se retrouve le mois prochain pour une prochaine émission audio et dans quelques jours pour la nouvelle formule de 404 et vous. On vous en parlera très vite. Venez nous voir sur internet pour avoir toutes les infos. Allez, ciao ciao.
Ciao ciao.
Bye.